Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle.
Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Aujourd'hui, Claire-Marie Dikanska accueille une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
Demain, je me mets au régime. Combien de fois a-t-on entendu cette phrase et combien de fois l'a-t-on prononcée ? On voudrait être plus en phase avec notre corps et être en meilleure santé, mais s'affamer et se mettre au sport intensif, c'est cher payé. Qui serait prêt à pousser son organisme à bout pour rentrer dans un jean ? Alors on repousse l'échéance et on reste dans nos mauvaises habitudes. Pourtant, être mieux dans sa peau, ce n'est pas si difficile. Et selon notre invité du jour, ça ne passe pas par des solutions drastiques. Il faut avant tout changer d'état d'esprit. Dans son livre « 10 minutes par jour pour te transformer » publié aux éditions Marabout, cette coach sportive axée sur la positivité nous donne des clés pour penser mieux, manger mieux et bouger mieux afin tout simplement de nous sentir mieux. Et bonne nouvelle pour celles et ceux qui n'ont pas le temps, il suffit de 10 minutes par jour pour voir des résultats. À l'aide d'exercices très concrets, cette ancienne championne de karaté nous aide à reprendre en main notre corps et à penser positif. Son mot d'ordre, il faut sourire et non souffrir pour être belle ou beau. Bonjour Julie Debatty et bienvenue dans Graines de Métamorphose.
Bonjour, bonjour.
Tu fais du karaté depuis tes 2 ans et demi et tu as derrière toi une grande carrière de compétitrice. À 40 ans, qu'est-ce qui a changé dans ton rapport au sport ?
Ben absolument tout en fait, parce que on peut plus attendre de soi à 40 ans d'avoir le même corps, la même performance que quand on en a 20, et c'est tout à fait normal. Malheureusement, beaucoup trop de personnes se comparent à leur âge de 20 ans, avec leur corps de 20 ans, avec leur forme physique de 20 ans. Mais tout a changé, notre métabolisme, nos hormones, notre musculature, notre emploi du temps, notre mindset. Donc il faut vraiment arrêter de vivre avec le regard dans le passé, en fait, tout simplement, et regarder au moment même et s'adapter dans sa pratique. Et moi, la mienne, elle a énormément évolué, bien évidemment, puisque avant, j'étais dans le sport ultra performance, le dépassement, ça doit être dur, ça doit faire mal. Surentraînement, être le meilleur, battre l'autre, parce que quand on fait un sport de combat, bien évidemment, c'est l'objectif. Et ici, avec le temps, tout simplement, je me suis rendu compte que mon objectif et mon optique de vie étaient devenus différents, que j'ai plus besoin d'être dans cette lutte et que j'avais le droit de laisser souffler mon corps, qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Et j'ai accepté aussi que je ne sais plus faire les mêmes choses que quand j'avais 20 ans, et c'est tout à fait normal. Et je pratique avec beaucoup plus de modération, bien évidemment. Et j'ai eu envie de transmettre ça aussi aux femmes, de ne plus transmettre du sport performance, du sport où ça fait mal, où ça doit être intensif, mais vraiment eu envie de transmettre. On peut prendre soin de soi, on peut faire du sport plaisir, santé, sans pour autant être dans une performance et dans un dépassement de soi.
C'est un sport qui est quand même beaucoup plus facile à intégrer dans son quotidien aussi.
Ah mais totalement. Et le gros problème, je trouve, en fait, dans l'enseignement du sport, que ce soit à l'école ou que ce soit dans l'objectif politique de rendre le sport pour tous et parler de sport, eh bien, on parle trop souvent du sport compétition, du sport performance. Et donc, du coup, je trouve que les enfants, dans la scolarité, quand on leur apprend de faire du sport, je trouve qu'on ne leur apprend pas de la bonne manière. On leur apprend à faire du sport, juger, performance, être meilleur, évaluer. Et qu'en fait, si on n'est pas fait pour ça, spécialement, si ce n'est pas trop notre truc, eh ben, on se sent exclu, on se sent à part et on se dit « en fait, c'est foutu, ce n'est pas fait pour moi ». Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est comme ça qu'on dégoûte quelqu'un à la pratique sportive parce qu'il se dit « mais c'est pas mon truc, j'ai pas envie d'être meilleur que l'autre, j'ai pas envie de me dépasser. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont plus forts que moi, etc. » Ils sont moqués, ils sont jalousés, voire même humiliés des fois. Et alors, ça les dégoûte et ils n'ont plus du tout envie de se mettre au sport. Et ils se disent « définitivement, c'est pas fait pour moi ». Tandis que si on leur enseigne que le sport, en fait, c'est un jeu, c'est gai, c'est ludique, on s'amuse, ça fait du bien, on trouve quelque chose qui nous fait nous amuser, eh bien, on prend du plaisir avec le sport. Et alors là, on a envie de continuer. Mais si ça devient une contrainte, c'est pas agréable. Et ça doit s'appliquer dans tout, en fait. C'est vraiment, même à l'âge adulte, le sport doit être une notion de plaisir. Et malheureusement, on associe ça beaucoup trop souvent avec une notion de performance, difficulté, et ça fait mal. Et alors, du coup, il y a plein de gens qui ne s'y mettent pas. Or, ce n'est pas du tout ça. Il faudrait plutôt parler de pratique sportive, mais pas de sport, parce que le mot sport est tout de suite à une connotation compétition, dépassement, dur, ça fait mal, etc. Et c'est vraiment en éduquant, dès le plus jeune âge, je trouve qu'on va instaurer cette notion que le sport, c'est chouette, en fait. Et que ce n'est pas toujours être dans la performance, etc., quoi.
Pensez mieux, mangez mieux, bougez mieux, le tout en 10 minutes par jour, c'est la promesse de ton livre. Qu'as-tu voulu transmettre ?
J'ai vraiment voulu transmettre toutes les clés en fait, que j'ai acquises au cours de mes expériences multiples dans mes vies, j'allais dire, mais dans ma vie. Parce que je pratique le sport depuis que j'ai 2 ans et demi. Donc ça fait quand même un paquet d'années, plus de 40 ans de pratique sportive. Et puis je me rends compte que vraiment autour de moi, les gens ne bougent pas assez ou disent toujours qu'ils n'ont pas le temps de manger sainement, pas le temps de prendre du temps pour eux, pas le temps de bouger sainement. Et alors je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible, tous ces gens qui bloquent, en fait, d'une manière ou d'une autre, à faire des choses pour eux qui leur font tellement de bien à tout niveau. Et pourquoi ne pas leur faire comprendre qu'on peut, en fait, finalement, faire ça même en 10 minutes et casser ces fameux codes qu'on nous inculque que la séance de sport doit être longue et intense pour être efficace. C'est absolument faux, c'est fini tout ça, c'est... Avant, il y a bien d'autres méthodes maintenant beaucoup plus intéressantes qui montrent que, et qui ont fait leur preuve que même en 10 minutes par jour, on peut être efficace. Que manger sainement, ça ne doit pas être long, ça ne doit pas être contraignant, ça ne doit pas être compliqué. Que penser positif, de prendre du temps pour soi, eh bien, on peut prendre du temps pour soi 10 minutes par jour pour faire de la méditation, de la respiration, lire un bon livre, se poser et chill. Et finalement, 10 minutes, c'est quoi sur une journée ? C'est même pas 1%. C'est même pas 1%. On a bien 1% pour prendre soin de soi. Quand on voit le nombre de temps que les gens passent sur les réseaux sociaux, moi, c'est un petit challenge que je donne de temps en temps à mes abonnés. Je leur dis, allez un petit peu regarder le nombre de temps que vous avez mis aujourd'hui sur vos réseaux sociaux. Et alors là, c'est le silence derrière, parce que ce sont des heures. Et finalement, si on remplace ces heures-là pour se dire « je peux quand même trouver 10 minutes sur ma journée pour soi », on n'a plus d'excuses pour prendre du temps pour soi, pour se sentir juste bien.
Tu parles pas juste de sport, comme tu disais, la pensée positive, c'est un des 3 piliers de ta méthode. En quoi consiste-t-elle et comment est-ce qu'elle peut changer nos vies ?
Ah, mais ça change la vie sur tout, absolument tout. Pour moi, on ne peut pas être épanoui et heureux sans prendre soin de son état d'esprit. Si on se dit qu'on va être heureux parce qu'on va avoir le corps parfait, on ne sera pas heureux puisque le corps parfait n'existe pas. Et le corps parfait, ben, c'est souvent, comme on l'a dit dans l'intro, c'est régime, souffrance de sport, etc., etc. Eh bien non, justement, le corps parfait n'existe pas, n'existera jamais. Donc on court après quelque chose qui finalement ne s'arrêtera pas et auquel on n'atteindra pas un but. Donc à partir du moment où on change son état d'esprit, où on change sa manière de se traiter, de se voir, si on apprend à être bien comme on est, si on apprend à s'aimer comme on est physiquement, à donner de l'amour à son corps, à être bienveillant, à en prendre soin, en fait, tout simplement. Parce qu'à partir du moment où on le fait bouger sainement, sans torture, sans souffrance, bien, c'est hyper positif pour lui et pour l'esprit. À partir du moment où on le nourrit positivement, de manière agréable, c'est hyper positif pour l'esprit et pour le corps. Et donc, en fait, à force d'en prendre soin en lui donnant des pensées positives, en prenant du temps pour soi, en le nourrissant sainement, en le bougeant sainement, eh bien, à la longue, notre corps, tout simplement, il va juste nous dire merci. Et comment est-ce qu'il nous dit merci? En nous donnant des résultats. Et réellement, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui me disent tout le temps, « Julie, j'ai essayé tous les régimes. Julie, j'ai tout fait en sport. Ça ne marche pas. Il n'y a rien qui fonctionne sur moi. » Eh bien là, je sais tout de suite qu'il y a quelque chose qui bloque dans l'état d'esprit, en fait. Et la troisième phrase qu'elles me disent trop souvent, et ça me fait tellement mal au cœur, c'est « Je déteste mon corps. Je déteste mon corps. Je me dégoûte. Je ne sais pas me voir dans le miroir. » Et là, ça me déchire quand j'entends des choses comme ça. Et je me dis « Mais écoute, la première chose qu'on va d'abord apprendre, c'est d'abord apprendre à remercier ton corps pour tout ce qui t'apporte dans la vie, pour tout ce qui te fait faire, pour tout ce que tu peux vivre grâce à lui. » En fait, parce que si te faisait pas bouger comme ça et vivre toute ta vie, et s'il était si catastrophique et mauvais, ben tu vivrais pas la vie que tu vis, t'aurais pas vu tout ce que t'as fait, t'aurais pas eu d'enfant, t'aurais pas fait ceci, t'aurais pas fait cela. Donc d'abord, apprends à le remercier. Dis-lui merci d'être en vie, de te porter chaque jour et de t'aider chaque jour. Prends-en soin. Et à partir du moment où tu l'aimeras tel qu'il est, tu vas voir qu'il y a comme un espèce de pouvoir magique qui va venir. Il y a quelque chose qui va se passer, clac, comme ça. Et le blocage va se défaire aussi. Et on va finalement avoir beaucoup plus de résultats qui vont se faire. Parce qu'en fait, on n'est pas en train de courir après une quête qui finalement n'arrivera jamais. Le corps parfait. Parce que même la plus belle femme du monde n'est pas parfaite. Il y a toujours des gens qui vont dire qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle a des défauts. Donc, qu'est-ce que la perfection? C'est impossible à la définir, elle n'existe pas. Donc pourquoi courir après quelque chose qui n'existe pas? Donc si on se dit, je serai heureux et je me sentirai bien dans mon corps quand j'aurai le corps parfait, mais finalement on ne sera jamais heureux. On est d'accord. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre à être heureux maintenant, tel qu'on est, à s'aimer, à prendre soin de soi, à se bichonner, à manger sainement, à bouger sainement. Et alors, ben, on va voir qu'on va rayonner en fait de l'extérieur parce que ben c'est sain ce qu'on va avoir. Et puis aussi, il y a aussi les fameux blocages émotionnels qui peuvent aussi intervenir, qui sont, pour moi, comme je l'expliquais tout à l'heure, probablement dus beaucoup à l'enfance aussi. Il y a peut-être une très mauvaise expérience sportive à l'enfance, dans l'école, des humiliations, la manière dont on a peut-être été rabaissé, etc. Et ça bloque, en fait. Et on se dit, ben, le sport et moi, laisse tomber, c'est mort, ça n'arrivera jamais. Ou il y a aussi les héritages transgénérationnels aussi, où de famille en famille, on dit, oh, mais tu sais, chez nous, laisse tomber, on est gros, hein, de famille en famille, enfin, d'année, de génération en génération, c'est foutu, ça sert à rien que tu fasses le régime, de toute façon, nous, on est gros, c'est mort. Ou nous, de toute façon, tu verras, on n'est pas fait pour le sport, on est nul pour ça, etc. Et ben, du coup, on est persuadé que c'est vrai, finalement, même si c'est pas vrai. Donc, il faut casser ces codes-là et se dire, mais non, c'est pas parce que toi, t'es comme ça que moi, je suis comme ça. Et à partir du moment où on casse cet héritage, en fait, qu'on nous a inculqué psychologiquement depuis le début et qu'on comprend pourquoi, d'où vient le blocage, eh bien, en prenant soin de son corps, on a vraiment des super résultats. Et c'est pour ça que le corps et l'esprit sont absolument liés.
Tu parles de prendre soin de son état d'esprit. Comme si c'est une attitude active, en fait. C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler, ou il faut vraiment se poser pour prendre soin. Est-ce que tu peux nous donner des exercices pratiques pour vivre la pensée positive au quotidien?
Ah oui, ben, la pensée positive, c'est un entraînement. Donc, c'est vraiment comme s'entraîner pour le sport. On n'arrive pas à être marathonien du jour au lendemain. C'est à force de répétition et d'entraînement qu'on y arrive et de pratique. Eh bien, la pensée positive, c'est tout à fait pareil. En fait, c'est à force d'arriver à entraîner son état d'esprit à se focaliser sur le positif et non pas constamment sur le négatif qu'on y arrive et que ça devient un réflexe absolument naturel. Alors, les trucs, il y en a plein, mais par exemple, la méditation, ça peut énormément aider. J'en propose sur ma plateforme Be Fit Good et puis j'en propose aussi une dans mon livre parce que c'est un entraînement de nouveau, voilà, quand notre esprit part ailleurs, on le rechoppe, on le reconcentre sur quelque chose et c'est vraiment à force de pratique qu'on y arrive. Et c'est pareil, en fait, c'est dans la vie, on a tendance à se focaliser tout le temps sur le négatif. On est fait comme ça, c'est notre cerveau, il va voir plus le négatif que le positif. Et bien, si on arrive à s'entraîner à se dire hop, tu pars en live là, mon coco, où tu vas? Tu vas pas là-dedans, dans cette direction, c'est pas le bon endroit. Tu reviens ici et maintenant tu vas là-bas et là, c'est positif. Donc ça, c'est génial. Et puis, moi, je suis une grosse fan du carnet de vie, j'appelle ça le carnet de pensée positive. C'est me lever chaque matin, je fais toujours une lecture positive, je fais une méditation de 5 à 10 minutes, peu importe en fonction de mon emploi du temps, et j'écris mes intentions positives de la journée, tout ce que j'ai envie qui se passe dans ma journée, comment je la vois, comment je l'imagine. Et je peux dire que à 80%, ça se produit à chaque fois, c'est super chouette. Et alors, fin de journée, je termine toujours ma journée en me disant « Ok, qu'est-ce qui s'est passé de positif dans ma journée ?» Et là, je les note. D'abord, je valide tout ce que j'avais souhaité pour voir ce qui s'est passé ou pas. Et puis, j'ajoute toutes les choses qui se sont passées, qui ont été super agréables. Et en fait, ce qui permet d'écrire comme ça, par exemple, à la fin de la semaine, on reprend notre carnet, on le lit et on se dit « Mais finalement, cette semaine, elle a été chouette !» Parce que, on n'a écrit que du positif dans ce carnet-là. Et donc, on se rend compte que finalement, elle s'est bien passée. Et même dans la pire journée, même dans la journée la plus pourrie qu'on puisse avoir, c'est vraiment super important de faire ce travail et de se faire cet entraînement, de se dire « Ok, cette journée a été catastrophique. Je cherche 3 choses positives qui se sont passées dans ma journée. » Alors, ça peut être un petit détail, une petite chose, un sourire, quelqu'un qui nous a laissé passer dans la rue. On a rigolé avec notre chat. Non, le chat ne rigole pas, mais on a joué avec le chat. Un compliment, un rayon de soleil, peu importe, une toute petite chose. Mais au moins, ce sera quelque chose de positif. Et on se focus sur ce moment positif. Et ça, c'est vraiment, vraiment extrêmement magique. Donc, c'est vraiment un travail, voilà. Essayer de, dès que notre cerveau, il part un peu en live comme ça, vers le négatif, le rattraper et lui dire « Non, je veux pas que tu ailles vers là, je veux que tu ailles vers là, vers le positif. » Et voilà, ça, c'est par exemple un des chouettes exemples que je trouve qui est le plus puissant. Et puis, il y a plein de choses aussi, comme le rire, le sourire, il y a plein de choses qui sont hyper magnétiques et on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais oui, c'est vrai que j'en ai regroupé pas mal dans mon livre et sur mon site et sur mes réseaux aussi. Mais voilà, pour moi, je trouve que la chose la plus facile à faire, c'est vraiment ce petit carnet. On les note parce que les pensées, elles s'effacent, tandis que les écrits restent. Donc, c'est ça qui permet que par après, quand on a un coup de mou, hop, on va relire ça. Et comme il n'y a que du positif dedans, ça nous entraîne vers le positif.
Mmh. Tu parles de gratitude. Pourquoi est-ce qu'elle joue un rôle si important dans notre bien-être ?
Ah ben parce qu'on a tendance à ne pas voir tout ce qu'il y a de bien dans notre vie, justement, et qu'on est surtout entouré, malheureusement, de choses tout le temps négatives. En fait, les médias, on allume la télé, c'est négatif. On regarde les réseaux sociaux, il y a plein de négatifs. On écoute la radio, c'est négatif. On regarde le journal papier, c'est négatif. Enfin, on est entouré de négatifs. Et puis les gens aussi ont tendance à être un peu toxiques, on va dire, parce que les gens ont tendance à plus se plaindre que de mettre le positif en avant. On a plutôt tendance à faire une remarque négative plutôt que de faire un compliment à quelqu'un. La nature humaine est un peu trop dans le négatif. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment essentiel d'être dans la gratitude, de se rendre compte, en fait, finalement, que notre vie n'est pas négative. Non, pas du tout. Notre vie, elle est super positive, mais il faut ouvrir les yeux. Et c'est pour ça que la gratitude, c'est être heureux et content de toutes les petites choses, même les plus minimes qu'il y a de positif dans notre vie. Et ça nous permet vraiment d'être heureux et épanouis. Voilà, et ça nous permet vraiment de le voir et de sortir de ce monde un petit peu noir dans lequel on nous met de manière globale dans la vie et de voir qu'en fait la vie, elle est chouette, elle est belle, il y a plein de belles choses à voir, il y a plein de belles choses à vivre, il y a plein de belles personnes à rencontrer, mais la gratitude nous entraîne à ça, à exercer notre esprit, à se rendre compte de toutes ces belles choses qu'il y a dans la vie.
Dans ton livre, tu parles d'égoïsme rayonnant.
Ah oui.
Voilà, c'est un concept qui était intéressant. Moi, je me suis posé la question de savoir comment on fait la différence entre égoïsme rayonnant et égoïsme tout court. Donc déjà, première chose, et puis aussi dans la vie de tous les jours où c'est quand même difficile de prendre du temps pour soi, de se mettre en premier. Quand on a une famille, des enfants, comment est-ce qu'on fait pour pratiquer cet égoïsme rayonnant?
Alors, l'égoïsme rayonnant, c'est vraiment c'est un titre que j'ai complètement inventé, en fait, qui m'est venu comme ça. Parce que c'est toute ma façon de penser, en fait, par rapport à toute cette quantité de femmes et d'hommes. Enfin, principalement les femmes, je trouve, qui ne prennent pas du temps pour elles, qui me disent tout le temps, j'arrive pas à trouver du temps, il y a ceci, il y a les enfants, enfin, il y a le boulot, il y a machin, il y a bidule, il y a bazar. Et donc, du coup, je me dis, mais il faut pouvoir prendre ce temps de manière égoïste. Voilà, égoïste, c'est vraiment... pour soi, rien que pour soi. Donc on se dit, oui, de l'égoïsme, c'est faire quelque chose pour soi, pour se faire du bien à soi et juste en pensant à soi. Et l'égoïsme rayonnant, en fait, c'est comprendre que quand on est maman, par exemple, et qu'on décide de prendre ce fameux temps pour soi, pour son bien-être, pour être de lire des choses positives, de méditer, de faire du sport, rien qu'à soi, rien que son moment à soi, eh bien, en fait, cet acte d'égoïsme, de temps pour soi, ben, devient rayonnant parce que une maman épanouie, une maman qui se sent bien, une maman heureuse parce qu'elle pense à elle aussi, eh bien finalement ça va rayonner autour d'elle, ça va rayonner sur son entourage, ça va rayonner sur ses enfants, ça va rayonner sur son mari et tout le monde va en profiter en fait. C'est quand même vachement plus agréable de vivre avec une maman souriante, qui est heureuse, qui est positive, qui est de bonne humeur, etc., et qui se sent bien, plutôt qu'une maman qui est tout le temps triste, qui fait la tronche, qui est pas bien dans sa peau, qui pleure, qui est mal, qui vit plus, qui étouffe, qui est malheureuse. Ben, ça rayonne aussi, mais négativement sur toute la famille, en fait. Et donc, c'est pour ça que l'égoïsme rayonnant, c'est faire un acte égoïste qui va finalement profiter et rayonner sur tout le monde de manière extrêmement positive. Et donc, prendre du temps vraiment pour soi, ne serait-ce même que 10 minutes par jour, et c'est pour ça que ce livre, même 10 minutes par jour, ça peut faire un bien fou. Je ne commence jamais aucune de mes journées sans prendre du temps pour moi. Et la routine du matin, c'est la meilleure pour moi, en fait, parce que c'est le meilleur moment de la journée où on peut être sûr que personne ne va nous déranger. Et donc, je reviens à cette question, justement, comment est-ce qu'on fait en tant que maman, justement, d'arriver à trouver ce temps pour soi. Ben moi, mon petit conseil, c'est de dire aux mamans, essayez de vous lever un quart d'heure avant vos enfants, avant de démarrer la journée. Qu'est-ce que ça va changer un quart d'heure de moins de sommeil? Absolument rien du tout. C'est pas ça qui va faire que vous allez être plus fatigué ou moins fatigué. Levez-vous un quart d'heure, plutôt, et prenez ce temps pour vous. Faites du sport le matin. Vraiment, si vous en avez l'occasion, faites le sport le matin. Ça va vous booster en énergie. Ça va vous rendre beaucoup plus productive dans la journée. Ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner de l'entrain, ça va vous donner du positif, ça va vous donner de la forme, vous allez être beaucoup plus joyeuse et passer une meilleure journée. Et pourquoi le matin? Bien parce que simplement, comme ça, c'est fait. C'est fait le matin. Il n'y a pas les enfants qui viennent déranger, il n'y a pas un imprévu de la journée. La journée n'a pas démarré. Donc, il ne se passe rien d'imprévu. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il va y avoir un rendez-vous. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il va y avoir... il faut aller faire des courses. Il y a le petit qui s'est déchiré le pantalon. Il faut vite aller chercher un pantalon après l'école parce que sinon, il n'y a plus de pantalon pour demain. Enfin, j'invente des petites choses comme ça. Il faut faire le souper. Oh mince, le linge, oh mince ceci, oh mince cela. Et finalement, si on se dit qu'on va prendre le temps pour soi dans la journée ou fin de journée, eh bien, malheureusement, la première chose qu'on sacrifie, c'est ce temps pour soi, c'est soi. On est d'accord. C'est les mamans, on ne pense pas d'abord à soi. C'est pour ça qu'il faut être égoïsme rayonnant. Mais donc, si on fait le matin, il n'y a rien qui vient nous déranger. Il n'y a plus rien qui vient annuler et qui peut venir perturber ce moment pour soi dans la journée. C'est fait. Voilà. C'est mon meilleur conseil, je pense.
tu en parlais rapidement au début. Un autre obstacle à notre épanouissement. Je dis un autre obstacle parce que, bon, la famille n'est pas un obstacle à notre épanouissement, mais bon.
Pas du tout, non.
Voilà, pas du tout. Mais ça peut arriver parfois que ça rentre, en fait, dans notre... Enfin, que voilà, notre emploi du temps soit dérangé par ça. Mais du coup, tu parles des croyances limitantes, qui sont quelque chose qui nous empêche, en fait, de s'épanouir.
Oui.
De quoi s'agit-il et comment les identifier et les combattre concrètement ?
Alors, c'est pas toujours facile de les identifier seul. Souvent, il faut être un petit peu accompagné de quelqu'un qui arrive un petit peu à nous titiller pour chercher comment les trouver. Mais c'est des choses qu'on croit qui sont là, mais en fait, qui sont pas là, en fait. C'est des choses qu'on nous a mis dans la tête de génération en génération et qui sont pas vraies. C'est souvent, en fait, les premières fois qui sont souvent le marqueur de ce que va déterminer notre cerveau pour la suite. La première fois, en fait, c'est vraiment ça qui se marque dans notre cerveau. Et si la première fois est une expérience négative, le cerveau va se dire « Ah, mais non, mais ce truc-là, c'est négatif, donc j'y retourne pas. » Il est feignant, en fait. Il va nous dire « Mais non, 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 tu vas pas là, c'est pas possible, c'est pas bon pour toi, t'aimes pas, ça s'est pas bien passé, attention, danger. » Et en fait, pas spécialement, c'est pas parce qu'une fois, ça s'est mal passé, que ça va toujours mal se passer. Il y a plein d'exemples comme ça. C'est pas pour une fois que le sport, ben, ça a pas fonctionné, que ça va jamais fonctionner, parce qu'il y a d'autres sports, il y a d'autres choses. C'est pas parce qu'on est tombé sur un homme négatif ou mauvais ou méchant que tous les hommes sont comme ça. C'est faut pas faire de génération pour rien, en fait. C'est juste une fois. Mais malheureusement, notre cerveau, il a tendance à retenir ça. Et alors, c'est à force, en fait, de répétition, parce que malheureusement, une fois que c'est ancré, c'est bien ancré. Donc, il faut plus de temps pour désancrer une croyance que de l'ancrer. L'ancrer, ça se fait en une seconde, en une fois, en une expérience. Mais quand on veut l'enlever, eh bien, c'est à force de se répéter tout l'opposé, en fait. C'est arrêter de se dire « je ne suis pas capable » ou « je ne sais pas faire ça » ou « le sport et moi, ça fait deux, ce n'est pas possible ». Eh bien, c'est « je peux le faire, j'y arrive, je le fais ». Voilà, et casser en fait vraiment le contraste de la négation, le mettre de manière extrêmement positive pour plein de choses. Et dès qu'on a un blocage en fait, dès qu'on a quelque chose qui nous bloque dans la vie et qui on se dit c'est pas possible, je sais pas faire ceci ou j'y arrive pas ou je suis nul ou je suis ceci ou je... Mais que ça a une connotation négative ou d'échec, eh bien on casse cette tendance-là et on part sur une connotation positive et on contrecarre quoi. C'est pas je ne sais pas, c'est je sais. Je fais, j'y arrive. Et à force de répéter, parce qu'il faut le faire plusieurs fois, c'est pas magique malheureusement, eh bien on y arrive et on casse cette fausse croyance et finalement on se rend compte qu'on y arrive.
C'est un peu ce que tu disais au début quand tu parlais de pratiquer la pensée positive pour un peu combattre cette négativité qu'on a autour de nous, mais qu'on a aussi en nous, qu'on a intégré
ouais.
En fait.
Ouais, tout à fait. C'est vraiment aussi arrêter ces injonctions de « je dois ». Il faut. Voilà, ça c'est... Non, on ne doit jamais rien dans la vie. Il ne faut jamais rien. On n'est jamais obligé de rien. Jamais. C'est juste que, il faut juste se poser la question, c'est est-ce que je suis prêt à assumer les conséquences ? Et à partir du moment où on n'est pas prêt à assumer les conséquences, eh ben, on ne se dit pas je dois, c'est juste que j'ai envie ou je le fais parce que je n'ai pas envie d'assumer les conséquences. Et à partir du moment où on se dit, ben, je vais reprendre de nouveau l'exemple du sport, je dois faire du sport pour maigrir, je dois maigrir. Mais quelle est l'énergie négative qu'on se met en soi dans son état d'esprit ? La vibration, elle n'est pas agréable. Donc du coup, ça vibre négatif en soi. On a pas envie de le faire, c'est pas cool. Et tandis que si on dit, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, ben, ça vibre vachement plus positif quand même, non ? Et donc, du coup, l'énergie, elle est différente et le plaisir, il va sortir tout de suite. Mais si on le fait avec une contrainte, si on le fait pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, si on le fait pas pour soi et si on le fait pas de manière positive, on n'y arrive jamais.
Mmh. Tu parlais tout à l'heure de méditation.
Ouais.
Pour cultiver la pensée positive, pour calmer l'esprit. Est-ce que tu as des conseils pour celles et ceux qui ne tiennent pas en place et qui se laissent distraire facilement, puisqu'il y en a beaucoup ? Et est-ce que tu aurais un exercice simple à proposer pour justement arriver à se concentrer, à se détendre ?
mais je ne tiens pas en place, mais je suis pas super active, mais je suis une femme super speed qui ne sait pas s'arrêter, faire une seule chose à la fois. Donc, je suis même très hyper active. Et donc, si j'y suis arrivée, je pense que tout le monde peut y arriver, parce que là, moi, c'était même pas envisageable de faire de la méditation, ni de faire du yoga, ni de faire des choses très lentes, surtout que j'étais dans un sport très, très, très speed, avec le fitness bien en aérobique, avec le karaté. Là, on était très rythmé, etc. Je me dis, c'est pas possible, je vais m'ennuyer, je vais m'endormir, ça ne va pas fonctionner. Eh bien, en fait, je crois qu'il faut être patient, et il faut aussi, surtout, le faire dans des bonnes conditions. Et ça, c'est aussi important, parce qu'il y a des gens qui essayent peut-être pour la première fois, la méditation, dans un endroit ou dans un lieu ou à un moment qui n'est peut-être pas le bon, où on va être dérangé, où il va y avoir quelque chose qui va nous distraire, qui va nous retirer de ça, qui va nous empêcher d'y arriver. Donc je pense que d'abord, l'ambiance et la condition et le moment et le lieu dans lequel on le fait les premières fois est extrêmement important. De nouveau, on parle de première fois, hein, première expérience qui va déterminer la suite. Mais c'est vraiment, voilà, on se met dans un endroit où on ne va pas être dérangé, d'abord. Ça, c'est vraiment très, très important. On se met de manière confortable. On met une ambiance cocooning avec des bougies, des senteurs, etc. Ça met déjà quelque chose de zen. On met une musique super relaxante, super zen. Et là, rien que déjà comme ça, on a déjà envie de planer. On se sent déjà bien. Mais c'est vraiment très important. Et alors aussi, je pense que c'est très, très important de ne pas faire ce travail de méditation. Je pense que ça a aussi un rôle dans un endroit où on a tendance justement à être hyperactif. Donc, c'est-à-dire, pas faire ça dans sa cuisine où c'est quelque chose où on est tout le temps dans le speed et tout et tout. Pas faire ça spécialement dans son bureau où on est plutôt à penser travail, 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 travail. S'octroyer mais vraiment un petit coin calme dans un petit coin de la maison où ça va être agréable et prendre le temps. Voilà. Et il faut se dire que c'est pas grave si on n'y arrive pas dès la première fois. C'est comme de l'entraînement, de nouveau. Et c'est à force de pratique et aussi trouver la méthode qui nous correspond le mieux. Moi, j'en pratique beaucoup. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours de femmes qui m'ont dit qu'elles avaient essayé plusieurs fois la méditation, que ça n'avait pas du tout fonctionné, qu'elles avaient vraiment aimé mon approche et la manière dont je la transmettais. Donc, tant mieux, super. J'étais contente d'avoir mis des gens à la méditation. Et qui ont pris, qui maintenant sont devenus vraiment accros à ça et qui se rendent compte à quel point ça leur fait du bien. Mais je pense que la mise en condition est extrêmement importante, la patience aussi, et ne surtout pas se dire « ouais, c'est bon, j'y arrive pas, moi, c'est pas fait pour moi », ou abandonner trop vite, c'est comme dans tout. Patience, patience, patience. Et c'est à force d'arriver à comprendre que ton cerveau, il est parti ailleurs pendant ta méditation, qu'il pense à autre chose. Et c'est cet entraînement-là, en fait, que la méditation est très puissante. C'est se dire, hop, 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 t'es où là ? Non, 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 tu reviens ici, là, maintenant. Et il revient au moment présent. Et tu lui dis, allez, reconcentre-toi sur quelque chose. Respiration, ou le ventre qui se gonfle, etc. L'air qui rentre et qui sort, peu importe. Mais c'est aller le rechercher. Et en fait, le travail de la méditation, c'est vraiment une fois qu'on a compris, qu'on se rend compte qu'on part ailleurs et qu'on sait se faire revenir comme ça, eh ben, on a réussi. Et parce qu'il ne faut pas s'en vouloir d'être parti ailleurs, c'est pas grave, ok. T'es parti ailleurs, t'es revenu, c'est très bien. Et on continue. Et si tu repars ailleurs, c'est pas grave. À force, tu vas voir, tu vas rester de plus en plus longtemps dans le moment présent. Et là, on a gagné parce que ça va être bénéfique pour tout dans la vie, en fait.
Le deuxième pilier de ta méthode, c'est manger mieux.
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'il faut arrêter les régimes et par quoi on les remplace ?
Ah, les régimes, quelle horreur. Parce que c'est très, très, très mauvais. Je ne connais pas une seule personne qui a fait régime, qui n'a pas repris du poids, ou qui se sent bien, ou qui n'a pas eu des troubles de l'alimentation, ou qui n'a pas eu l'effet yo-yo. Réellement, j'en connais pas du tout. Parce que dans un régime, c'est privation, c'est restrictif. On s'enlève des choses qui nous font du bien. Et l'alimentation doit rester un plaisir. C'est un plaisir, l'alimentation. Donc, si à un moment donné, on enlève toutes nos sources de plaisir, c'est pas agréable et on n'a qu'une seule envie, c'est de craquer pour se faire plaisir. Donc, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est éduquer, comprendre. À partir du moment où on a compris, c'est quoi manger sain ? Simplement, c'est quoi ce qui n'est pas bon, en fait, pour soi ? Comment est-ce qu'on déchiffre les produits industriels et les étiquettes ? Une fois qu'on les comprend aussi, ça, je le mets dans mon livre et dans ma plateforme, c'est plein de petits trucs. lire les choses, comprendre les choses. Et une fois qu'on comprend, eh bien, l'alimentation saine, elle est facile, en fait. On n'a pas de privation. Moi, dans les programmes que je donne et dans les recettes, mais il y a des choses hyper gourmandes, il y a des choses sucrées, mais des bons sucres, des bonnes graisses, des bons aliments de qualité, voilà. Et alors, on a un bon gâteau au chocolat qui nous fait vachement envie, qui sent bon le chocolat et tout, et qui nous fait plaisir. Donc, on a cette sensation de plaisir, mais on n'a pas cette culpabilité parce qu'il est sain, voilà, tout simplement. Et donc, l'alimentation, c'est simplement savoir quoi manger au bon moment, savoir quels sont les mauvais sucres, détecter où il y a les petits pièges des sucres cachés, etc., etc., bannir, en fait, tout ce qui n'est pas bon, et se rendre compte qu'en fait, manger sain, c'est super bon, c'est super goûtu, et que c'est pas désagréable et que c'est pas mauvais. Et à partir du moment où on a compris toute cette éducation-là, eh bien, on prend vraiment du plaisir à manger et on n'est pas dans la frustration. Comme, ben, il faut aussi... moi, je prends l'exemple, si on a envie de se faire vraiment un plaisir, si on a envie d'aller au restaurant, mais on y va, vraiment. On le fait, mais on le fait dans la qualité, en fait. C'est ça qui est très important. J'ai envie d'une pizza, je ne vais pas aller m'acheter une pizza surgelée du supermarché, super industriel, pleine d'additifs, pleine de crasse, pleine de graisse, pleine de sucre, etc. Non, j'ai envie d'une pizza, mais je vais dans une bonne pizzeria, chez un bon pizzaiolo qui va me faire une pizza de qualité, qui va être trop bonne, que je vais kiffer ce moment, je vais prendre du plaisir, mais au moins ce seront avec des ingrédients sains et vrai, pas chimique, etc. Et c'est OK, on s'octroie cette pizza. Elle nous a fait plaisir. Bon, maintenant, il ne faut pas le faire tous les jours, c'est sûr. Mais si on mange sain tout le temps et qu'on se fait des écarts comme ça, c'est OK, le lendemain, il ne faut pas commencer à se punir en disant « je fais régime, je saute les repas, je ne mange plus que des potages et je fais quadruple ration de sport pour éliminer mon excès ou même pareil après les vacances. » Bah non, pourquoi? Non? Si on mange sain et qu'on bouge sain toute l'année, on a le droit de se faire plaisir et puis de reprendre là où on en était.
Tu dis que perdre du poids, c'est pas forcément perdre du gras. C'est assez contre-intuitif. Pourquoi tu dis ça?
Parce que beaucoup de gens font l'erreur quand ils se mettent à faire du sport, par exemple, c'est de se peser. Voilà. Et ça, c'est l'erreur fatale. À partir du moment où on fait du sport, on oublie de se peser. On oublie parce que ça va être contre-productif, tout simplement, parce que quand on fait du sport, on fait du muscle. Le muscle, il va peser plus lourd parce qu'on le construit. Donc, il va prendre du poids, on va dire ça comme ça. Le muscle, il va prendre du poids. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait du sport et qu'on commence à faire attention à manger sainement, on va brûler du gras. On va brûler du gras qui va s'éliminer. Mais on va créer du muscle. Alors, attention! Parce que l'erreur qu'on fait beaucoup, c'est que beaucoup de gens disent « le gras se transforme en muscle ». Mais pas du tout, jamais, c'est deux choses différentes. Il y a le gras, il y a le muscle. C'est le gras, il fond, et le muscle, il gonfle, il prend du poids. L'un ne devient pas l'autre, c'est pas possible. Le gras ne se transforme pas en muscle, ça c'est vraiment une grosse erreur qu'on fait. Le muscle pèse plus lourd que la graisse, proportionnellement, donc en termes de volume. Donc, on a éliminé du gras, mais on a fait du muscle. Et puis, on monte sur sa balance, ça n'a presque pas bougé, voire même ça a augmenté. Alors on se dit, non, je ne veux pas continuer ça, ça ne sert à rien, c'est pire, j'ai pris du poids. Mais pas du tout, en fait. T'as fermé combien de crans à ta ceinture? 2-3. Oui, mais ma balance, voilà, t'as fermé 2-3 crans à ta ceinture. Donc, t'as maigri, tu t'es affiné, en fait, tu t'es tracé, t'as perdu des centimètres. Donc, la balance, c'est vraiment pas un bon indicateur et c'est vraiment, faut vraiment arrêter de se peser à partir du moment où on commence à bouger.
Par rapport au gras, tu dis justement que tous les gras ne sont pas forcément à bannir de l'alimentation quand on essaye de perdre du poids.
Bah oui, bien sûr. Un saumon, c'est gras, mais c'est un bon gras. Un avocat, c'est gras, mais c'est du bon gras, c'est du gras sain. Ce qui n'est pas bon, c'est les graisses saturées, c'est le trop gras dans une viande, par exemple, le trop de beurre ou des choses comme ça, ou des mauvaises huiles. Mais les gras qui sont des bons oméga, etc., ben oui, ça, il faut en privilégier parce que c'est très bon pour notre alimentation. Il ne faut surtout pas les bannir. Et voilà, ça, c'est l'erreur aussi. Il y a beaucoup de gens qui lisent les étiquettes, mais mal, qui disent « oh, c'est super gras, ça ». Oui, mais non, c'est un bon gras. Voilà, c'est ça qui est toujours un petit peu compliqué. Et il y a les fameux Nutri-Score, mais c'est hyper trompeur, en fait, c'est pas vrai du tout. Un paquet de chips, des fois, ils nous mettent un Nutri-Score C. Et alors qu'un bon aliment, ils vont nous mettre un D, parce qu'il y a du gras. Mais c'est du bon gras. Donc c'est mal foutu, ce truc. Je pense qu'il faut pas trop se fier à ça, quoi.
Mmh. Oui, tu disais justement dans ton livre que il faut aussi se permettre à un moment donné, quand on sort ou quand on voilà, enfin d'avoir des péchés mignons comme tu dis la charcuterie, de manger quelque chose qui est pas forcément toujours bon pour soi.
Oui, c'est ça. C'est comme ce que j'expliquais juste avant avec la pizza. Voilà, c'est la qualité. Voilà, il faut savoir se plaire, faire plaisir avec la qualité et pas se punir après.
Voilà. Par contre, le sucre, tu dis qu'il faut limiter quand même au maximum.
De nouveau, les mauvais sucres. De nouveau, les mauvais sucres. Parce que, alors, je dis stop au sucre, c'est stop au mauvais sucre. Le sucre blanc, le sucre raffiné, le sucre caché. Voilà, à partir du moment où on comprend quels sont les bons sucres à consommer, parce qu'on en a de nouveau besoin aussi pour vivre, notre métabolisme a besoin de sucre. C'est un carburant aussi, c'est important. Il faut savoir juste à quel moment c'est bien de les assimiler, où ils sont le mieux assimilés pour notre corps. Et savoir les sucres cachés dans les produits industriels. En fait, quand on achète quelque chose dans le commerce qui est préfait et qui est tout fait et qui est industriel, quoi, en soi, si on regarde bien, on se rend compte que finalement, c'est plein de sucre, même si c'est un plat salé ou si c'est quelque chose de super salé. Quand on regarde la description, c'est bourré de sucre parce qu'on nous a mis du sucre pour avoir des exhausteurs de goût, que ce soit meilleur, que ça ait plus de goût, etc. Et c'est complètement affolant quoi, de voir des choses comme ça. J'ai déjà vu du jambon blanc, il y a du sucre. Mais what? Comment ça? Il n'y a pas de sucre dans le jambon? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est les industriels qui nous mettent ça pour le goût, pour la conservation, etc. Donc, c'est pas bon. Voilà, à partir du moment où on sait que, par exemple, les farines blanches, les pâtes blanches, c'est pas top parce que c'est bourré de sucre. Ben, il y a des très bonnes farines d'épeautre. Ben, moi, j'utilise que celle-là dans tout. Je fais plus de farine blanche. Elle est très bonne. Elle change pas, presque pas le goût. Et c'est bien meilleur pour la santé. Pareil pour les pains blancs, pour les pâtes blanches, etc. Ça, c'est des petites choses qu'il faut essayer de diminuer ou de supprimer. Mais ça veut pas dire tout supprimer. Voilà. Il y a des très bons sucres comme les sucres de fruits. Hein, et les sucres des fruits, c'est très bon pour la santé. Mais par exemple, je vais prendre l'exemple de l'orange. C'est un fruit extrêmement sucré qui est très bon à manger, j'insiste bien sur manger, croquer une orange parce qu'il y a les fibres, etc. Et ça aide à mieux assimiler le sucre. Mais si on presse une orange, en fait, on ne fait que d'extraire le sucre. Donc, ce qu'on va boire dans une orange, dans un jus d'orange, c'est que le sucre, les fibres, elles sont pas passées. Donc, du coup, on met que du sucre dans son organisme et on met pas les fibres qui vont avec. Donc, voilà, c'est des petits trucs à savoir que l'orange, c'est très bon, mais faut la croquer, faut la manger, faut la mâcher. Voilà. Il faut pas la boire, par exemple. Ben voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut éduquer, il faut comprendre, quoi.
Mmh. Est-ce que tu as des conseils pour changer ses habitudes alimentaires sur le long terme?
Ben, comprendre. Voilà, de nouveau, c'est comprendre et apprendre quelles sont les bonnes choses, les mauvaises choses, et y aller progressivement aussi, probablement. Alors, il y en a qui aiment bien le côté radical du jour au lendemain, parce que sinon, ils n'y arrivent pas. OK, il n'y a pas de souci. Ou sinon, il y en a qui vont petit à petit, c'est diminuer les quantités progressivement, ben justement, de sucre. Et on arrive... Enfin, moi, j'étais quelqu'un qui, il y a quelques années, adorait le sucre, mangeait le petit déjeuner sucré, etc. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais des hyper grosses hypoglycémies, je me sentais super mal, je mangeais beaucoup plus à midi parce que j'avais très, très faim et j'avais la tête qui tournait et tout. Et en fait, c'est simplement parce que je mettais pas le bon carburant dans mon corps dès le matin. C'est beaucoup mieux de mettre du salé le matin, en fait, tout simplement, pour démarrer et pour avoir le bon carburant, tenir jusqu'à midi et ne pas être affamé à midi et avec un gros coup de down. Donc, c'est comprendre, y aller progressivement et à force, ce sera durable.
Bien manger, ça se passe aussi dans la tête, comme tu disais. Qu'est-ce que c'est la nourriture émotionnelle et comment on arrête de faire ça?
En fait, c'est prendre le réflexe qu'à chaque émotion, on mange quelque chose. Et donc, on est content, on mange. On est triste, on mange. On a quelque chose à fêter, on boit, on mange. Et donc, c'est lié chaque fois à une émotion. Et ça s'appelle l'alimentation émotionnelle. Alors ça, c'est normal parce que manger, c'est un plaisir. Donc, il faut garder cette notion de plaisir. Là où ça devient un problème, c'est quand ça devient compulsif et qu'on ne sait plus s'arrêter. Et donc là, c'est l'alimentation compulsive émotionnelle. Et donc, ça devient des troubles de l'alimentation, c'est-à-dire on est malheureux. Comme on voit dans les films américains, on ouvre le pot de glace et on le mange entièrement jusqu'à ce que ça nous rende même malade, finalement, de l'avoir mangé, en pensant que c'est ce pot de glace-là qui va nous consoler. Mais en fait, pas du tout. Il ne va pas du tout nous consoler, le pot de glace. Et c'est ça le problème, c'est qu'on recherche le plaisir procuré par la nourriture en se plongeant dessus, mais sans savoir s'arrêter, en allant dans l'excès. Et donc, finalement, ça ne comble absolument rien du tout et ça ne fait que d'être une catastrophe et ça engendre un sentiment de culpabilité parce que finalement, quand on a fini ce fameux pot de glace, on se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis laissé emporter comme ça? Et je vais grossir et c'est foutu et j'ai foutu tout en l'air et tout et tout et tout. » Mais non, il ne faut pas du tout se flageller. Il faut... pas non plus s'opposer à cette alimentation plaisir. Donc si on a envie de quelque chose et si on se dit non, je le fais pas, ça va être encore plus frustrant qu'autre chose, donc on va encore plus en avoir envie, donc ça va créer encore plus de désagréments. Il faut se l'octroyer, mais avec petite quantité et en pleine conscience. Voilà, mais je vais pas tout dévoiler non plus dans le livre. J'explique dans le livre ce que c'est.
Ça marche.
Finalement, on arrive au troisième pilier. Le bien-être, c'est aussi le mouvement.
Oui.
Quel sport pratiquer et comment l'intégrer dans nos quotidiens?
Alors, on peut pratiquer tous les sports. Tous les sports sont bons. Ce qui compte, c'est qu'ils nous plaisent et qu'ils nous procurent du plaisir. Et qu'on s'amuse à le faire. Maintenant, si on a envie d'être efficace, on va parler plutôt d'efficacité physique pour avoir des résultats et d'être en forme sans que ça nous prenne des heures et trop de temps, alors là, effectivement, tout ne peut pas fonctionner. Parce que, par exemple, le billard est un sport. On ne peut pas dire que ce soit très, très physique et qu'on va brûler beaucoup de calories. Donc, voilà, il y a sport et sport. Mais, les combos qui sont gagnants et que je mets dans mes méthodes sur mon site BeFitGood et sur mes réseaux, c'est vraiment le mix entre le renforcement musculaire qui, lui, va tonifier, raffermir, affiner, muscler et déloger le gras, combiné à du HIIT, H-I-I-T, High Intensity Interval Training, qui lui va aller en espace de temps très court, de haute intensité fractionnée, où on va se dépasser. Donc on est dans un cardio de haute intensité, mais pas de panique, c'est accessible à tout le monde parce qu'on le fait à son rythme. Eh bien ce HIIT-là, il va aller en fait éliminer les graisses qui ont été délogées par le renforcement musculaire notamment, et qui se balade un petit peu aussi, pour imaginer, elle se balade un petit peu. Donc, il va aller éliminer les graisses et les sucres stockés pendant 48 heures. Donc, pendant 48 heures, on continue à éliminer. Donc, ça veut dire que pour continuer, en fait, à bouger au quotidien, le corps va aller puiser dans les réserves, en fait, et va les éliminer. Donc ça, pour ça, c'est vraiment le combo gagnant. Et pour moi, il ne faut pas faire l'un sans l'autre. Parce que si on fait que de brûler du gras et qu'on ne renforce pas musculairement, on a un corps mince mais mou. Et pas ferme, on va dire, pas tonique. Si on fait que du renforcement musculaire, ça ne va pas spécialement éliminer le gras. Donc, on va avoir un corps musclé, mais gras. Donc, c'est bien de cumuler les deux. Et ces deux méthodes-là permettent, si elles sont bien exécutées avec les bons exercices, de vraiment être efficaces, même en peu de temps. Voilà, c'est pour ça que moi, ma méthode en 10 minutes, elle est vraiment travaillée, elle est vraiment étudiée pour avoir un bon combo qui puisse réellement être efficace en 10 minutes. Je vais donner un exemple. Il y a des personnes qui font des séances d'une heure. Eh bien, si on regarde, en fait, elles vont faire presque exactement le même nombre d'exercices que moi, je fais en 10 minutes. À part qu'ils sont mal placés. Donc, la posture est extrêmement importante. Il suffit de mieux se placer. Le mouvement, on peut en faire 200. Il ne sera pas efficace. Par contre, on va en faire 3 séries de 15. Il va être super efficace et on va sentir que le muscle, il a super bien travaillé. Donc, et puis, en 10 minutes... on chipote pas, on commence pas à papoter avec la copine pour raconter sa vie, etc. On n'est pas chill. Donc, on peut faire une séance d'une heure qui, finalement, en termes d'exercice, on va faire exactement la même chose que 10 minutes où on s'arrête pas, on enchaîne et hop, 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 hop. Donc, faut arrêter de croire que vraiment en 10 minutes, on peut pas avoir des résultats. C'est absolument faux. C'est juste la bonne méthode, les bons enchaînements, l'intensité qu'on va y mettre, bien évidemment, la régularité, les résistances qu'on va y mettre. Et alors, la troisième méthode, en plus du renforcement musculaire et du HIIT, c'est les abdominaux hypopressifs. Cette technique est absolument miraculeuse et magique parce que c'est un travail en profondeur avec la respiration et l'engagement du périnée et avec le ventre. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très doux, totalement accessible à tout le monde. Et surtout, quand on a chopé la technique, on peut le faire partout. Donc, ça veut dire qu'on peut l'appliquer dans les transports en commun, on peut le faire au boulot, on peut le faire dans sa salle de bain, en se brossant les dents, dans son lit, n'importe où. On peut faire ce petit exercice de respiration, d'engagement du périnée, de rentrée de ventre. Et alors, ça va dessiner et sculpter la ceinture abdominale. C'est ça qui permet de perdre le petit bidou que souvent, nous, les femmes, on a difficile à avoir, surtout à la ménopause, préménopause et après une grossesse, par exemple. C'est cet endroit-là qui est super difficile à avoir. Mais avec les abdominaux hypopressifs, avec un bon engagement du périnée, on arrive vraiment à rendre du tonus à cette zone-là, justement. Et donc, si on combine les trois, on est dans une méthode qui est parfaitement efficace. Et alors, les abdominaux hypopressifs, ça, c'est la technique hypopressive de base, d'accord ? Mais évidemment, si on veut aller plus loin, on le fait dans certains mouvements, en mouvement, etc. Et c'est ça que je propose dans des séances, c'est pas que de respirer. C'est de le mettre dans des difficultés de mouvement qui vont faire que ça va engager encore plus de muscles et ça va renforcer le dos et ça va faire travailler la posture, etc. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, le trio absolument gagnant. Et il y a la régularité, bien évidemment, aussi.
Je trouve ça intéressant que tu parles d'intégrer le sport dans nos autres activités, comme on prend le métro.
Ouais.
Et en fait, en même temps, on fait nos abdos. Donc ça se rajoute un peu à ces 10 minutes.
Ouais.
En fait, c'est une manière facile de faire du sport.
Ah, mais tellement. En fait, ça s'appelle le NEAT, N-E-A-T, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ça veut dire que c'est tout ce qui va finalement brûler des calories en dehors de la digestion qui naturellement brûle des calories, en dehors de la respiration aussi, parce qu'il y a les muscles qui se contractent aussi, donc mine de rien, ça brûle des calories, et tout ce qui est aussi en dehors de la véritable, on va dire, pratique sportive, le fait d'enfiler sa tenue et de bouger pour le sport. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire tout le temps, en fait, qui, seul, si on fait que ça, ça ne va pas être miraculeux, d'accord ? Mais combiné, si on combine toutes ces petits nids au fil de notre journée, ces petits réflexes de prendre, de marcher plus, de prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, de faire les abdominaux hypopressifs dès qu'on y pense, de se mettre en chaise invisible pendant qu'on scrolle les réseaux sociaux et plein d'autres exercices comme ça. Si on les cumule sur une journée, ils vont avoir leur résultat, tout cela, ils vont être efficaces. Et si en plus, on le met en plus de notre activité sportive, là, on a encore plus d'effet. Donc, c'est vraiment très important d'essayer de bouger, mieux bouger. Et donc, ça ne veut pas dire faire des séances longues et intensives de sport, c'est bouger dans son quotidien, faire les bonnes choses au bon moment et prendre du plaisir.
Tu parles de mieux bouger et dans ton livre, tu parles aussi de posture. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à sa posture dans chaque mouvement ? Et comment être sûr qu'on a la bonne posture, en fait ?
D'abord, la posture, c'est absolument essentiel. Et si on n'a pas une bonne posture, on peut d'abord, comme je l'ai dit juste ici avant aussi, un mouvement mal placé, on peut en faire 200, on ne s'en sert à rien du tout, le muscle ne va pas du tout être engagé, ça n'aura aucune efficacité. Tandis que s'il est bien placé, avec le bon engagement, le bon placement, on en fait 3 fois 15, on sent tout de suite que ça a bien travaillé. Donc ça, c'est déjà l'efficacité. Deuxièmement, c'est éviter les blessures aussi, parce que si on est mal placé, c'est comme ça qu'on peut se faire très mal au dos, très mal au cervical, très mal aux hanches, très mal aux genoux, etc., etc. Et donc, c'est contre-productif, parce qu'à partir du moment où on se blesse, on arrête une longue durée, le temps de se remettre, et donc finalement, on n'a pas eu de résultat non plus. Donc la posture, c'est vraiment très, très, très important de bien se placer. Et comment savoir, d'abord, si on est bien placé, je pense que c'est d'abord le travail du choix du coach, c'est que si on a un coach qui ne prend pas du tout le temps d'expliquer la posture avant de démarrer, et ni même pendant, on ne saura pas le faire. Si lui, en plus, n'a pas une bonne posture, parce que malheureusement, il y a des coachs qui n'ont pas du tout une bonne posture, qui n'est pas sève et qui n'est pas dans l'autograndissement, etc., dans le respect des articulations et de la colonne, on va que reproduire un mouvement mal fait. Donc, du coup, on n'aura pas une posture et on va mal le faire. Donc, c'est vraiment très important d'avoir un coach qui prend le temps de l'expliquer, de le décrire. Et ça, je suis assez fière de moi sur ce coup-là. C'est que je prends vraiment un point d'honneur à ça. Je prends toujours le temps avant chacune de mes séances d'expliquer le mouvement, d'expliquer ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire et de rappeler constamment la bonne posture durant toute la séance. Parce qu'on oublie, en fait, à un moment donné, on va relâcher le ventre. On va plus y penser, on va se mettre à creuser son dos, etc. Mais moi, toute la séance, à un moment donné, je fais « rentre ton ventre !» Et alors, c'est très marrant parce que je suis en ligne, elles ne me voient pas et je ne les vois pas. Et alors, elles me disent « mais Julie, c'est bizarre parce qu'à chaque fois que je fais tes programmes, j'ai chaque fois l'impression que tu as mis une caméra dans mon salon, que tu me vois, c'est pas possible. Au moment où je rentre mon ventre, tu me dis « rentre ton ventre !» C'est magique, c'est pas possible. Je dis « bah oui, en fait, c'est parce que j'ai la chance d'avoir enseigné pendant 23 ans en cours collectif. Donc, j'ai eu des élèves devant moi. J'ai vu les bêtises qu'on fait. J'ai vu les moments où elles vont mal se placer. J'ai vu toutes les formes de postures différentes qui pouvaient être possibles, imaginables, d'envisager pour mal se positionner. Donc, je sais ce qu'elles vont faire. Je sais comment elles vont mal se mettre. Et je sais surtout à quel moment elles vont relâcher leur attention et qu'elles vont relâcher la posture. Et donc, même sans les voir, avec cette expérience et ce vécu, et puis le fait aussi que je fais avec elles la séance, ça aussi, c'est très important. Je ne fais pas que de les regarder, je le fais. Donc, moi aussi, je ressens le mouvement et je sais à quel moment c'est important de leur rappeler. Eh bien, je rappelle toujours au bon moment, en fait. C'est vraiment l'expérience. Et donc, c'est ça qui est très, très important. C'est qu'encore plus, quand on fait du sport en ligne, c'est encore plus important de faire travailler avec un vrai professionnel et qui va vraiment respecter la posture et qui va vraiment l'expliquer. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'en ligne, parce qu'on peut reproduire un mouvement très mal fait et on ne sait pas si on est bien placé, surtout si on ne nous l'explique pas. Donc le petit truc, moi je dis toujours à mes élèves, vous essayez de placer un miroir face à vous, à côté de l'écran que vous regardez. Donc vous me regardez dans le téléphone, dans l'ordinateur ou de la télé, peu importe, vous mettez un miroir à côté pour vous voir et vous comparez votre posture à la mienne en fait. Et si vous voyez que c'est pas trop pareil, eh bien vous corrigez. Et avec les conseils évidemment. Et honnêtement, moi j'ai vu plein d'élèves qui étaient finalement en ligne, qui ont suivi ma méthode en ligne et qui n'ont jamais fait en présentiel avec moi, n'ont jamais vu ou même n'ont jamais fait de sport. Eh bien je suis super contente parce que je vois qu'elles ont compris la posture, elles font pas de bêtises. C'est incroyable. Et je crois que ça dépend vraiment de la pédagogie du coach et de la manière d'enseigner. Et moi, j'essaie vraiment de vulgariser aussi le langage sportif. C'est très important parce que derrière, parce que l'élève, il n'a pas fait anatomie. Il ne connaît pas tous les muscles ni tous les os du corps. Il ne sait pas si tu lui dis c'est l'engagement de machin, bada. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est quoi cette langue? Je n'ai pas compris. Tandis que si tu lui dis tout simplement quelque chose qu'il comprend tout de suite, tu rentres ton nombril, tu rentres ton ventre. Là, on va travailler l'avant de la cuisse. Attention, tire tes fesses vers l'arrière pour mieux te placer. Pousse ton talon en avant, etc. Et bien, tout de suite, ça leur parle. C'est quelque chose de basique, en fait, de facile. Et donc, la personne, elle parle le même langage. Le coach parle le même langage que la personne qui n'a pas un langage professionnel. Et donc là, on comprend tout de suite les choses.
Merci beaucoup, Julie, pour tous ces conseils. Et pour cette méthode simple qui va nous permettre de nous sentir bien dans nos corps et dans nos vies. Pour en savoir plus, je vous conseille le livre de Julie Desbatty, 10 minutes par jour pour te transformer, aux éditions Marabout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « Graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de « Métamorphose », le podcast qui éveille la conscience.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Alors les amis, avez-vous jamais pris un moment pour réfléchir à votre chemin de métamorphose ? Pour vous aider, nous avons créé un test exclusif et gratuit qui a déjà séduit plus de 25 000 personnes, la roue métamorphose. En 39 questions, explorez les piliers essentiels de votre vie : amour, spiritualité, famille, abondance, psychologie, santé et bien-être, pour n'en nommer que quelques-uns. En moins de 10 minutes, engagez-vous dans ce voyage introspectif et recevez à l'issue un rapport détaillé sur votre propre métamorphose, accompagné d'une sélection personnalisée de podcasts. Pour accéder à ce test totalement gratuit, rendez-vous dès maintenant sur la page d'accueil de notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com.